France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Londres et Bruxelles sont tout proches d'un accord commercial sur le Brexit, et cela après 10 mois de discussions et à 8 jours de la date limite. Les discussions se poursuivent en ce moment même. Elles ont duré toute la nuit, selon un porte-parole de la Commission européenne. Hier, les Britanniques ont fait d'énormes concessions. Voilà ce que dit en tout cas une source gouvernementale française qui cite notamment le secteur de la pêche. S'il est confirmé, ce compromis devra encore être validé par les 27 États membres de l'Union européenne. Pendant ce temps, à la frontière anglaise, c'est toujours la colère qui domine chez les milliers de routiers qui passent une nouvelle nuit dans leurs camions. Les flux de personnes et de marchandises ont repris hier matin. S'ils veulent rentrer en hexagone, les ressortissants français doivent présenter un test négatif au Covid-19. Mais pour les routiers, les tests antigéniques fournis par les autorités britanniques ne sont toujours pas arrivés. Je vous rappelle qu'au Royaume-Uni, ces dernières semaines, ces derniers jours, une nouvelle souche du Covid-19 a été détectée. Le nombre de cas de Covid-19 par ailleurs recensés en France ces dernières 24 heures augmente, avec près de 15 000 personnes comptabilisées hier. Mais le nombre de tests augmente grandement aussi à quelques heures des fêtes de Noël. D'ailleurs, notez ce matin que le taux de positivité est en légère baisse dans l'Hexagone à 4,3%. Le Premier ministre Jean Castex admet qu'il sera difficile de donner dans les prochaines semaines de la visibilité sur la réouverture des cinémas et des théâtres. Hier, le Conseil d'État a confirmé la fermeture des salles de spectacle en attendant une situation sanitaire plus calme. Le monde de la culture est confiné au moins jusqu'au 7 janvier, plus donc peut-être. Les commerces ont rouvert, je vous le rappelle, fin novembre, ainsi que les lieux de culte. Un pistolet, un fusil d'assaut avec silencieux et laser, l'homme attendait les gendarmes avec tout un arsenal. Un forcené a tué la nuit dernière 3 gendarmes et en a blessé un 4e à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme. La patrouille intervenait pour porter secours à la femme du compagnon, présumée victime de violences conjugales. L'homme de 48 ans a été retrouvé mort dans la matinée dans sa voiture après avoir tenté de prendre la fuite.
2020, comment le coronavirus a-t-il changé le monde ?
Sur France Culture, les enjeux internationaux, Julie Gacon.
La Chine finalement renforcée dans sa puissance, l'Europe plus fragile encore, le crédit moral des États-Unis abîmé, l'Afrique accablée mais réactive, l'épidémie a accéléré des tendances qui perçaient déjà dans le monde d'avant. Nos invités les décryptent chaque matin de la semaine.
Les enjeux internationaux, du lundi au vendredi à 6h40 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Nous qui sommes sans passé, les femmes.
Elles sont artistes, écrivaines, politiques, avocates, juges. Je ne serais pas arrivée là si. Nouveau podcast original de France Culture. Angélique Kidjo, Amélie Nothomb, Virginie Despentes, Christiane Taubira, Gisèle Halimi ou Shirin Ebadi, des femmes qui ont imposé leur voix dans un monde forgé par les hommes. À partir d'une série d'entretiens d'Annick Cogent, écoutons-les dans les voix de Julie Gaillet et Judith Henry qui signent la mise en scène. Je ne serais pas arrivée là si sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant. Ce matin, Bruno David nous explique en quoi tout est bon dans le Rennes.
Quel est cet animal qui habite une partie bien particulière de notre planète et qui s'envole, une fois par an, de nuit, pour la parcourir en tous sens à une vitesse qui dépasse l'entendement ? Vous êtes en train de vous dire que je ne suis pas sérieux, et pourtant, la réponse existe. Il s'agit du renne, bien sûr. Le fougueux renne, animal si nécessaire au Père Noël. Scientifiquement, le renne, Rangifer tarandus, est un cervidé arctique qui habite les plaines, toundras et forêts boréales. En Europe, il habite bien au pays du Père Noël, à moins que ce ne soit l'inverse. Les rennes vivent en harde de centaines d'individus qui effectuent de spectaculaires migrations saisonnières pour aller à la recherche de leur nourriture. Dans le nord de l'Europe et en Asie, le renne est domestiqué et sert d'animal de trait ou de bât. Depuis que l'humain fréquente ces régions nordiques, il a toujours croisé ses troupeaux. Pas que les nordiques d'ailleurs. En effet, lors des périodes glaciaires, les ceintures climatiques glissant vers le sud, la toundra polaire s'est retrouvée jusque chez nous. Les hommes de Néandertal et nos ancêtres Cro-Magnon ont donc aussi croisé des rennes, comme en témoignent les superbes peintures rupestres de la grotte de Font de Gaume en Dordogne. Au cours du dernier âge glaciaire, alors qu'il devait être très difficile de vivre, le renne était une ressource vitale. À l'époque, on n'élevait pas de cochons. Mais je suis sûr que l'on disait « tout est bon dans le renne ». La viande, la graisse, l'os, les tendons, les yeux, la fourrure, la vessie. Les humains ont fabriqué une foule d'outils, d'armes et d'ornements avec des os ou des bois de renne, comme ce magnifique propulseur de lance, somptueusement orné de deux bouquetins, qui est présenté au musée de l'Homme. Un vrai cadeau de Noël, cet animal. Les populations humaines dépendaient tellement du renne que le paléolithique supérieur, entre 45 000 et 12 000 ans, a même été appelé l'âge du renne. Mais revenons à l'essentiel. D'où vient l'association entre le renne et le Père Noël ? Noël tire son origine d'une fête païenne associée au solstice d'hiver. En effet, bien avant l'ère chrétienne, Noël plonge ses racines dans des légendes nordiques, notamment celle du dieu Odin chevauchant un cheval à huit pattes. Dans cette légende, le renne aurait été plus plausible que le cheval. Mais bon, quoi qu'il en soit, on retrouve le chiffre 8 dans les huit rennes du Père Noël. Vous m'objecterez qu'ils sont 9. Certes, mais j'ai la réponse. En 1939, un poète nommé Robert May en inventa un 9e, prénommé Rudolf, dont le nez lumineux oriente le Père Noël dans la tempête hivernale. Une sorte de GPS. La grotte du Renne, à Arcy-sur-Cure, dans l'Yonne, a livré des restes néandertaliens. C'est la grotte qui a convaincu les préhistoriens que l'homme de Néandertal fabriquait outils, parures et bijoux, et notamment à partir de dents et de bois de renne. Doit-on en déduire que le Père Noël livrait déjà ses cadeaux aux Néandertaliens ?
Matière grise et café noir, 6h-7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast. Ce matin, on se réveille avec la voix de crooner de Nat King Cole, 55 ans après sa mort. Ses chansons continuent à nous accompagner. Mais avant d'être le chanteur à la voix de velours, Nat King Cole a été une des figures emblématiques du jazz du XXe siècle et un pianiste d'exception avant de devenir un chanteur. Alors, un coffret 3 CD vient de sortir pour résumer la courte et très riche carrière de Nat King Cole, du solo au Big Band, d'une église d'Atlanta à Hollywood. Un coffret complètement réalisé par un amateur de jazz, Claude Carrière, mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
C'est la version originale, celle de 1951, Forgettable Nat King Cole. Bonjour Claude Carrière.
Bonjour.
Incomparable. Comment on dit en anglais?
Puisque... Incomparable, le même mot.
Mais le même mot, bah voilà, et c'est le titre de ce coffret donc que vous avez consacré, je dis bien que vous avez consacré, c'est à partir de votre collection de disques de Nat King Cole que vous avez conçu, vous le grand amateur de jazz.
À la maison.
Et vous avez tenu à ce que ce soit cette version-là d'Unforgettable qui figure dans le coffret.
Oui, parce que la plupart du temps, on entend la version qu'il a refaite en stéréophonie hein, 10 ans plus tard, mais c'est exactement le même arrangement. Et on a refait beaucoup de ces grands tubes à l'occasion de la sortie de 33 tours, 30 centimètres, de Nat King Cole Story. Toutes ces choses ressorties en stéréo. Pour les gens qui commençaient à être un peu plus exigeants au point de vue de la haute fidélité.
Dans ce coffret, vous rappelez qu'avant d'être le crooner qu'on connaît et qui continue à nous accompagner, il a été d'abord pianiste et il a beaucoup fait pour le jazz, pour des années 40.
On ignore trop qu'il a été un immense pianiste et qu'il a eu une énorme influence sur des gens, par exemple sur Oscar Peterson. Dont le jeu est vraiment calqué sur celui de Nat King Cole, ou sur Ray Charles. Le premier trio de Ray Charles, c'est un trio piano, basse, guitare, comme celui de Nat King Cole. Et Ray Charles chante d'ailleurs un peu comme Ray Charles. Mais Nat King Cole, je veux dire, était d'abord pianiste, et on l'aurait un jour ou l'autre forcé à chanter, un patron de club... pour faire plaisir à un client riche et un peu alcoolisé. Et là, on l'aurait un petit peu forcé à chanter, alors qu'il ne se sentait pas du tout prêt. On lui avait dit, mais t'as une voix lamentable, c'est pas possible, c'est toi avec tout ce que tu fumes. Et puis, en fin de compte, voilà, ça a plu et il a continué dans cette voie.
Tout commence dans une église, quelque part, dans un état du sud des États-Unis, à Atlanta, pour être précis.
Oui, bah, son père est un prêtre, enfin, un révérend.
Oui, un révérend.
Et il vit ses premières aventures musicales entre l'église et la maison, entre l'orgue de l'église et le piano de la maison. Et le père, d'ailleurs, n'aime pas trop qu'il joue de la musique de jazz, parce que c'est une musique un petit peu de péché. Et puis il passe outre, il apprend le piano d'une façon... Il a dû énormément... travailler le piano à partir de l'âge de 12 ans. Il a un très bon prof et il va jusqu'à Rachmaninov. Et on sent d'ailleurs dans sa façon de jouer qu'il est absolument impeccable techniquement, qu'il a beaucoup travaillé. On a un peu trop tendance à propos des jazzmen géniaux et noirs en général,
pour des
à penser que le petit Jésus leur a donné le don comme ça, alors que ce sont des gens qui ont beaucoup beaucoup travaillé dans des écoles très sérieuses, ou alors tout seul comme Errol Garner.
Dans votre coffret, Claude Carrière, on a donc un CD du chanteur populaire, mais il y a aussi tout un disque consacré à cette période où il était en trio. Il y a même des enregistrements de Nat King Cole au piano. Tout seul. Mais parlons d'abord de sa formation, de ce trio de Nat King Cole, c'est-à-dire dans les années 40. Il va avoir sa propre formation, Nat King Cole, Claude Carrière.
Après avoir très jeune dirigé même un grand orchestre à l'image de celui de Harlines, parce que certains des musiciens de Harlines lui donnent des partitions, son premier groupe avec lequel il va gagner de l'argent et va faire le métier, c'est avec juste une basse et une guitare. Il est l'un des tout premiers à avoir un groupe de ce format piano, contrebasse, guitare. De temps en temps, dans les enregistrements, il y a une batterie En plus, de temps en temps, il y a un soliste invité.
Voilà, par exemple, là, il va y avoir en solo un saxophoniste invité. Ce sont des compositions de Nat King Cole.
Non, non. Assez peu souvent, d'ailleurs. C'est pas vraiment un compositeur, non.
Qu'est-ce
non,
qu'il reprend, Nat King Cole, à cette période-là?
Il reprend tout ce qui est dans l'air, et puis on lui écrit des choses. Il y a de très belles histoires, d'ailleurs, sur certaines de ses chansons qui lui sont destinées.
Don't let it go to your head, ça veut dire quoi?
Ne laisse pas ça te monter à la tête. Les paroles des chansons sont pas tellement immortelles en général dans ce genre de répertoire. Enfin, pas systématiquement. Non, c'est la parfaite conjonction entre la voix et la prononciation. Prononciation, l'articulation qui est absolument parfaite.
You bet she'll flirt, but don't let it go to your head. You might get hurt, so don't let it go to your head. She doesn't ask any questions, save all the answers. You found her at last, and now you're part of a session that's moving too fast. She'll hold your hand, but don't try to reach for the sky. You'll understand as soon as the evening rolls by. She wears my ring on her finger, she'll never linger. So brother, you're dead. Just like I said, don't let it go to your head.
En 1955, l'enregistrement est parfait. Il fait partie de ces morceaux que vous avez choisis pour illustrer, Claude Carrière, toute cette partie professionnelle de Nat King Cole quand il est dans des formations de jazz, plutôt un trio là, même s'il y a...
C'est son trio avec en plus une batterie et un invité.
Et alors cet invité, ce saxophoniste...
C'est Willie Smith, c'est un des grands saxophonistes alto de l'histoire du jazz dans les années 30-40, avant l'arrivée de Charlie Parker. Il fait partie du triumvirat des grands saxophonistes alto avec Johnny Hodges qui est chez Duke Ellington et Benny Carter. On entend d'ailleurs des reflets un petit peu de Johnny Hodges dans ce jeu, comme ça très, très langoureux, assez sexy. C'est avant Charlie Parker, ça. C'est très beau.
Il y a un paradoxe, parce que Nat King Cole va être très populaire dans une Amérique de ségrégation raciale, c'est-à-dire les années 50, les années 60.
Et 40 surtout, 40 et 50, oui.
Mais dans les années 50, il est déjà populaire, Nat King Cole.
Il est déjà très populaire, mais dans certaines limites. Par exemple, il est un des tout premiers artistes noirs à avoir son propre show
à la télé.
Et ça dure à peine 3 ou 4 mois parce qu'il y a des annonceurs qui ne veulent pas donner de l'argent parce qu'ils ont peur que leurs annonces soient mal reçues dans certains États du Sud.
Why can't we try again to recapture the past? Don't let love die again. Let it live, let it last. Why can't we put aside our stubborn pride?
Comment il est perçu d'abord par ses pairs, par les musiciens? Comment se fait la popularité de Nat King Cole? C'est ses passages à la radio, c'est le bouche à oreille, c'est les gens qui vont le voir sur scène?
Immense respect de la part de ses pairs et beaucoup de disques vendus. C'est grâce à lui que la maison Capitol, lui puis Sinatra, se développe à partir de seulement eux deux, quoi. On construit la tour de la tour Capitole à Los Angeles avec les droits de King Cole, puis de Sinatra à partir de 52.
Sinatra qui sera très proche de Nat King Cole, puisque à un certain moment il va imposer que Nat King Cole dorme dans les mêmes hôtels que les musiciens et les chanteurs blancs, parce que ce n'était pas possible à l'époque, à Las Vegas.
À Las Vegas, tous les musiciens devaient aller s'installer, les musiciens noirs, allaient s'installer dans les hôtels réservés aux noirs, tout en au nord du Strip. Et c'était absolument écœurant, dans la mesure où, par exemple, certains racistes, vous savez comment ils appelaient la piscine de cet hôtel réservé aux noirs? Ils appelaient cette piscine l'encrier. Vous voyez l'état d'esprit. Et les musiciens, mais même de l'orchestre de Duke Ellington, au milieu des années 50, quand ils venaient jouer dans les grands hôtels, ils entraient par les entrées de service, passaient à travers la cuisine, et n'avaient pas le droit, pendant les pauses, d'aller dans la salle saluer leurs amis.
Quand Hollywood fera appel à Nat King Cole, parce que Hollywood fera appel à Nat King Cole, et pour tourner dans quelques films, quand Nat King Cole et son épouse s'installent à Los Angeles, ils reçoivent tout de suite une lettre des voisins qui lui rappellent qu'il est un indésirable.
Indésirable dans ce quartier chic. Il leur répond qu'ils regrettent infiniment. C'est peut-être eux qui sont indésirables de venir habiter dans un quartier où habite un noir. Et il est têtu et il reste.
Alors, avant de revenir sur cette période que nous connaissons, c'est-à-dire le Nat King Cole chanteur, le Nat King Cole crooner, ce qui est bien dans le coffret que vous avez réalisé pour bien marquer, parce que vous l'avez réalisé l'année dernière, et là, c'est pour bien marquer le centenaire de sa naissance.
C'était pour le centenaire.
De sa naissance. On découvre le Nat King Cole pianiste. On écoute un extrait et on en parle. En 1947, Nat King Cole au piano. Alors, à l'origine, c'était sorti en 78 tours, Claude Carrière. Et ce son parfait qu'on retrouve dans tous les morceaux de votre coffret.
Le son des 78 tours était supérieur quelquefois au son des micro-sillons. Le problème, c'était l'usure des 78 tours. Mais à partir du moment où on fait ça avec un disque neuf, on arrive à un résultat comme ça.
Vous voulez dire que vous n'avez pas du tout dépoussiéré pour ce coffret?
Un petit filtrage de la part du studio de la compagnie Crystal, très léger, non. Parce que plus vous filtrez, plus vous coupez les fréquences, notamment les fréquences aiguës, et ça me dérange.
Alors ce qu'on apprend, c'est que dans votre texte qui accompagne dans ce coffret, c'est qu'il préférait quand même être musicien, Nat King Cole, plutôt que le crooner qu'il est devenu.
Il préférait, c'était son vrai métier, c'était pianiste, mais je pense moi qu'il a préféré être crooner quand il a regardé son compte en banque, qui s'est rapidement gonflé, parce que un pianiste n'aurait jamais acheté la maison qu'il avait, sa maison familiale à Hollywood. Mais cela dit, je suis pas dans son cerveau pour savoir si regretter de ne pas être resté purement un pianiste de jazz, parce qu'il avait quand même une assez belle vie de faire les grandes salles. Moi, je l'ai vu à l'Olympia, je l'ai vu une fois en 60. Et
2000, donc 5 ans avant sa mort, quoi.
Oui, 2000 personnes sans aucun problème. Il n'avait même pas besoin de faire une annonce, il arrivait et il chantait avec l'orchestre de Quincy Jones, qui était un orchestre qui était à Paris à l'époque, et plus une petite section de violon. Ce qui était amusant et triste en même temps, c'est que le public était partagé. Alors il y avait les puristes dans l'histoire du jazz, et notamment en France, mais c'est un peu partout pareil, enfin un mal terrible. Parce qu'alors on s'accroche à des vraies valeurs. C'est un pianiste et puis quand il chante, c'est pas vraiment un chanteur de jazz, parce que tu vois, mais attendez, c'est pas à Montauban qu'on a inventé le lexique du jazz. Après tout, il chante comme il chante. Alors c'est moins rugueux que certains vrais, entre guillemets, chanteurs de jazz, entre guillemets, mais bon, voilà, ils swingent par exemple largement autant que n'importe quel chanteur. J'ai ce balancement purement jazz qu'il y a dans son chant, et voilà.
Et puis il avait du charisme.
T'es grand, t'es très beau, il était très noir, et certains films, on le voit carrément blanchi d'une façon absolument honteuse. Il a dans cette voix absolument unique et bouleversante, et qui est toujours aussi belle.
Y compris quand il chante en espagnol, parce que c'est des premiers chanteurs, j'allais dire, de jazz à chanter en espagnol.
Il a eu beaucoup de succès avec les deux ou trois disques qu'il a fait, entièrement chantés en espagnol, et en partie enregistrés à Cuba ou, et même à Rio. Je crois qu'il y a deux ou trois morceaux en portugais, je ne suis pas sûr.
Alors écoutez justement.
Beaucoup de succès avec ça.
Perfidia, c'était en 1958.
Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy.
Nicole, la perfidia en 1958. Ça aussi, on l'a dans votre...
Ouais. Le roi Cole, en espagnol.
Toutes les carrières de Nat King Cole, résumées dans ce beau coffret incomparable, 3 CD, 60 morceaux, concoctés par Claude Carrière, mon invité ce matin, spécialiste de jazz, bien sûr, journaliste, conférencier, et puis... À vos heures perdues, vous êtes aussi président d'honneur de l'Académie du Jazz et président de la Maison Duke.
C'est trop beau un seul homme. Il faut assumer. Oui.
Vous écoutez toujours autant de musique
Claude
Carrière.
Mais j'écoute aussi autant de musique classique.
Ouais.
Je viens ici très souvent écouter les orchestres.
Ici
aussi souvent.
C'est la maison de la radio.
Ouais. Oui. Aussi souvent que je vais au concert de jazz.
Nat King Cole, le coffret Nat King Cole, incomparable chez Crystal Records. Si vous avez pris des retards dans vos achats de cadeaux de Noël pour ce soir, et ben surtout n'hésitez pas, quel beau cadeau que d'avoir ce coffret avec les trois disques et bien sûr le livret de notre invité du jour, Claude Carrière. Vincent Abouchard, le réalisateur de l'émission, Corinne Amar, mon assistante, et Olivier Arnay qui était à la prise de son, se joignent à moi pour vous souhaiter un excellent Noël. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée sur France Culture.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Tour à tour, acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, Jacques Weber a eu à cœur tout au long de ses 50 ans de carrière de défendre un théâtre populaire de qualité.
J'ai une vieille tante que je déteste, qui a la télévision, et lorsqu'on est obligé d'aller chez elle parce qu'elle nous garde, on voit cette télé en noir et blanc, mais elle ne regardait que les émissions de catch.
Avec Panache, Jacques Weber, à voix nue, par Caroline Brouet, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Oui, France Culture, c'est une radio, mais c'est aussi un grand jeu de société qui s'appelle Prenez l'antenne.
160 ans plus tard, on a enfin mis un nom sur cette célébrité anonyme.
Arnaud Laporte.
Constance Quenniot, identifiée comme le modèle de l'origine du monde de Courbet, l'héroïne d'Histoire d'eau.
À qui les atlantistes s'opposent-ils traditionnellement ?
Émilie Aubry.
Aux pacifistes ? Aux continentalistes ?
Vous êtes curieux et joueur ? Alors oui, le nouveau grand jeu de société de France Culture, Prenez l'antenne, est pour vous. En vente en magasin et sur Internet, toutes les informations sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les admissions pour maltraitance d'enfants ont augmenté de 50% au printemps dernier par rapport à l'année dernière. Les chercheurs ont patiemment et logiquement analysé les données hospitalières. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Parole ensuite donnée à un franc-comtois frontalier de la Suisse qui passe la frontière pour aller travailler au risque de contaminer son entourage en pleine circulation du Covid-19. La Bourgogne-Franche-Comté est la région de France la plus touchée par l'épidémie. Emmanuel Macron en passe de guérison. Après 7 mois à être isolé, le président pourrait regagner Paris aujourd'hui. Nous reviendrons sur cette semaine de communication au sommet de l'État. Et puis nous irons dans cette édition en Centrafrique à 3 jours d'élections dans le pays. La population s'inquiète des violences récentes face aux groupes armés. La violence a bel et bien augmenté en France contre les enfants au sein des cellules familiales pendant le premier confinement au printemps dernier. 7 mois plus tard, une équipe du CHU de Dijon et du Centre de recherche en épidémiologie de Paris-Saclay au sein de l'INSERM documente ce phénomène. Il s'agit, Anne Fauquemberg, d'une vaste étude.
Les chercheurs se sont appuyés sur le programme de médicalisation des systèmes d'information, un dispositif de l'État qui enregistre les données de l'activité des établissements de santé publique comme privés. Ils ont comparé en particulier le nombre d'admissions hospitalières pour violences physiques des enfants de 0 à 5 ans pour les mois de mars et avril dernier, aux chiffres de la même période en 2017, 2018 et 2019. Conclusion, si les hospitalisations des moins de 5 ans ont diminué proportionnellement de 30% par rapport aux années précédentes, les admissions pour maltraitance ont augmenté de 50% selon cette étude. Cela concerne 112 enfants hospitalisés pour des violences graves allant parfois jusqu'au décès. Le neuropédiatre Yann Mikhaïlov, participant de cette étude, poursuit.
Dans les facteurs explicatifs, il y a la dégradation de la santé psychique des adultes qui sont aussi parents. Ça concerne, l'alerte des psychiatres est claire, à la fois les patients avec une pathologie psychiatrique chronique qui peuvent décompenser, et ça concerne aussi la population dans son ensemble qui est fragilisée par des facteurs aussi sociaux. Pendant ce premier confinement, ils avaient en plus les enfants à plein temps à la maison.
En l'absence d'école également, premier partenaire pour les maltraitances concernant les enfants, les signalements n'ont pas été aussi nombreux. Cette étude est en attente d'une publication dans la revue américaine Pediatrics. Elle est regardée de près par le secrétaire d'État Adrien Taquet, en charge de l'enfance et des familles.
Une étude qui portait donc sur le premier confinement contre le Covid-19. Il y en a eu, il y en a un autre depuis un deuxième, depuis un mois et demi maintenant en France. Et c'est à l'heure actuelle l'Est de la France qui est encore la région la plus touchée par le Covid-19, notamment la Bourgogne-Franche-Comté. Les taux de positivité des tests y sont élevés, plus de 9% contre 5% au niveau national. Parmi les départements particulièrement exposés, il y a le Doubs en Bourgogne-Franche-Comté. 30 000 frontaliers passent chaque jour la frontière vers la Suisse. Cette semaine, les mesures sanitaires ont été renforcées en Suisse, mais certains cantons y échappent. C'est le cas du canton de Vaud, où les bars et les restaurants sont actuellement ouverts. Alexandre Bourgeois, 33 ans, marié, père de 2 enfants, habite en France, dans le Doubs, donc à Frasne, près de Pontarlier. Et il se rend chaque jour dans les environs de Lausanne, en Suisse, où il travaille. Oui, dit-il à Bénédicte Robin, oui, il prend des risques.
Le plus difficile pour moi, en fait, ça va être le décollage. Ça veut dire que dans la même journée, on peut croiser vraiment presque des personnes qui attendent leur test, qui sont confinées à la maison et tout ça. Et puis d'un autre côté, carrément voir des gens en terrasse. C'est un vrai décollage, oui.
Et vous, quand vous travaillez dans votre entreprise, vous allez déjeuner avec vos collègues, vous allez au restaurant, vous faites tout ça?
J'allais de temps en temps au restaurant avant, maintenant plus. Mais du coup, j'emmène ma thermos de café, ma boîte en entre guillemets. Voilà, je fais vraiment pour avoir en fait presque aucun achat à faire et être autonome toute la journée, quoi. J'essaie d'être au moins en contact possible, ouais. Juste le mon travail et c'est tout, entre guillemets, ouais.
Est-ce que vous avez l'impression, vous vous dites, moi en tant que frontalier, je peux amener le Covid en France?
Un peu. Je me suis posé la question, moi, si je continue à aller à la salle de pause d'entreprise à cause de ça, ouais. C'est sûr qu'on se pose des questions. Voilà, depuis le début, je me dis que les navigations de population comme ça, entre pays, même entre régions, ça aurait pu être limité beaucoup plus. C'est sûr que nous, la région frontalière, tout ce qui est commerce et tout ça, vivent aussi du pouvoir d'achat des Suisses qui viennent faire leur commission en France. Et donc c'est un peu contradictoire, c'est comme beaucoup de choses malheureusement qui se passent en ce moment. C'est un peu compliqué.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial Bénédicte Robin en Bourgogne-Franche-Comté pour France Culture. Ce sera difficile de donner de la visibilité sur la réouverture des cinémas et des théâtres pour les prochaines semaines. Voilà ce qu'a affirmé hier soir le Premier ministre dans une lettre adressée à ceux qui font vivre la culture en France. Un peu plus tôt, le Conseil d'État avait décidé de ne pas autoriser la réouverture des salles de spectacle. Jean Castex dit comprendre le désarroi et la colère des artistes. Il promet de trouver des scénarios permettant des modèles d'ouverture graduée des structures concernées. Il est confiné depuis une semaine, positif au Covid-19. Emmanuel Macron pourrait toutefois sortir ce matin de la résidence de la Lanterne à Versailles. La santé du président s'améliore, a fait savoir l'Élysée hier. Il pourrait donc revenir à Paris, et ce après une semaine plutôt maîtrisée en termes de communication politique, Rosalie Lafarge.
Transparence et humanisation, ce sont les deux maîtres mots de cette séquence. Depuis une semaine, l'Élysée donne régulièrement des nouvelles de l'état de santé du président. Et dès le deuxième jour de son isolement, Emmanuel Macron lui-même s'empare de son téléphone pour publier une vidéo sur les réseaux sociaux.
Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, une toux sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui.
C'est un épisode de plus qui va être utile au président de la République pour renforcer son lien direct avec les Français.
Florian Silnicki, expert en stratégie de communication et fondateur du groupe La Frenchcom.
Le fait que le président de la République soit atteint, c'est aussi une manière de rappeler que ce président que l'on a cessé de décrire comme Jupiter au-dessus de la mêlée, eh bien, il est d'abord un homme comme les autres. Et ça, c'est intéressant pour Emmanuel Macron et ses conseillers, parce que le président de la République a, avec ses phrases arrogantes, pas longtemps été perçu comme déconnecté de la réalité. Et donc cette situation, c'est aussi un moyen à la fois d'ancrer le président de la République parmi la communauté humaine et donc entre les lignes de combattre les complotismes qui n'ont cessé de s'exprimer durement au point d'abîmer le lien de confiance qui existait entre la parole publique et politique d'un côté et une grande partie des Français de l'autre.
Un président qui fait preuve d'empathie, cherche à renouer le dialogue avec les Français, mais toujours reste au travail. Conseil des ministres, échange avec Vladimir Poutine, réunion en visioconférence. Fatigué et isolé, Emmanuel Macron n'a pas lâché les rênes. Et c'est aussi ça le message de l'Élysée cette semaine.
Qui détient les rênes d'un accord sur le Brexit? La présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique travaillent, dit-on à Bruxelles. Ils travaillent d'arrache-pied cette nuit encore pour conclure un accord historique. Quelques détails coincent encore, sur la pêche notamment. Le Brexit prendra effet normalement le 31 décembre. En cas d'accord commercial, les 27 pays membres devront encore le valider. Nous rejoindrons notre correspondante à Bruxelles dans le journal de 7h dans moins d'une demi-heure sur France Culture. Avant C'est en Centrafrique que nous nous arrêtons ce matin. Des élections législatives et présidentielles y auront lieu ce dimanche, mais l'inquiétude gagne Bangui. Après l'offensive entamée vendredi dernier par des groupes armés, la sécurité est ultra renforcée dans le pays. Sur place, Charlotte Cosset nous raconte.
Des véhicules de la mission onusienne sont stationnés au point stratégique de la capitale.
Vous voyez des déploiements de forces de sécurité locales, de forces de la MINUSCA, ainsi que des déploiements spéciaux dans les zones sensibles et les points chauds.
Dimitri Chop est le chargé de communication de la force conjointe de la MINUSCA à Bangui. Il assure que la mission patrouille 24 heures sur 24.
Normal patrol, they make in the circle in the area of responsibility.
Lors des patrouilles normales, ils font des cercles dans la zone de responsabilité. Les patrouilles spéciales essaient de choisir différentes routes afin de contrôler les différentes directions pour contrôler la sécurité. Pas uniquement sur les routes principales, mais aussi sur les petites routes de la ville.
Les rues sont clairsemées, beaucoup de commerces fermés.
Je peux le dire, il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation. Normalement, à ce moment de la journée, le trafic est plus important.
Si les activités tournaient au ralenti ce mercredi dans Bangui, c'est parce que dans la matinée, la panique s'est emparée du centre-ville. Une rumeur a annoncé l'arrivée des rebelles, créant une peur incontrôlée chez les habitants. Les rumeurs, un des plus gros défis pour les forces de la MINUSCA, le général de brigade Drissou Kadour, commandant de la force mixte de Bangui.
Ce qu'on peut craindre de plus, c'est d'avoir de fausses informations, ce qui nous demande de fournir beaucoup d'efforts.
Les Centrafricains sont très sensibles aux rumeurs. Le traumatisme des événements de 2013 est toujours très ancré.
Un conflit intercommunautaire avait en effet créé le chaos dans le pays, c'était il y a 7 ans. Charlotte Cosset a signé ce reportage, correspondante de RFI pour France Culture à Bangui. Le temps ce jeudi en France métropolitaine sera marqué par des averses, du vent et des températures en baisse. Seul l'extrême sud de la France sera au sec. Ce matin, il fait 7 degrés à Lille, 9 degrés à Paris et à Lyon, entre 11 et 12 degrés près de la Méditerranée. 6h40, vous écoutez toujours France Culture et nous retrouvons Julie Gacon pour les enjeux internationaux. Bonjour Julie.
Bonjour Clara.
Cette semaine, vous posez à vos invités la question « Comment le coronavirus a-t-il changé le monde ?» Ce matin, l'Afrique subsaharienne, moins éprouvée mais vulnérable.
Oui, le premier cas sur le continent africain a été diagnostiqué au Maghreb, en Algérie, le 25 février dernier. Depuis, le coronavirus est quelque peu répandu en Afrique, mais pas tant que ça en comparaison des autres continents. L'Afrique représente 17% de la population mondiale, mais à peine 3% des cas de coronavirus dans le monde, selon des chiffres certes à la fois difficiles à vérifier, sujets à variation, mais chiffres néanmoins officiels. Alors il serait aussi absurde de parler de l'effet du Covid en Afrique subsaharienne sans faire de distinction entre les 45 États touchés. L'Afrique du Sud, par exemple, concentre à elle seule 45% des cas. Évidemment, chaque État a eu sa propre réponse à l'épidémie, sa propre stratégie, ses propres discours. Bonjour Sina Schlimmer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Alors en ce qui concerne ces chiffres d'infection au virus en Afrique, lesquels vous retenez-vous ? Est-ce que vous êtes des optimistes qui disent que l'Afrique subsaharienne a évité le pire ? Ou est-ce que vous êtes des pessimistes qui pensent que ces chiffres sont très sous-estimés ?
Alors en effet, les chiffres sont à évaluer avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a deux enjeux majeurs. Il y a d'une part la capacité à effectuer des tests au niveau des différents États qui reste limitée, et deuxièmement aussi l'accès à l'information et le traitement de l'information reste compliqué. Après, on voit en effet des variations entre les différents pays. Selon les derniers chiffres, c'est surtout l'Afrique du Sud qui regroupe pour l'instant 60% des cas d'infection tous les jours de l'Afrique subsaharienne. Donc il y a des variations entre des pays. Il y a le Kenya et l'Éthiopie qui ont récemment aussi des nouveaux pics. Donc c'est des pics régionaux et parfois aussi plus localisés. Mais ça reste compliqué aussi à dire qui s'en sort le mieux, parce que évidemment les chiffres sont à évaluer avec beaucoup de prudence.
Et la capacité en plus à faire face à la fois à la crise sanitaire n'est pas la même d'un État à l'autre. Qui sont ceux justement qui s'en sortent le mieux parmi ces 45 États ?
Alors ça dépend. Il y a en effet en Afrique du Sud aussi, je recite ce cas, une capacité plus importante à effectuer des tests. À Nairobi par exemple, au Kenya, il y a entre 2 et 3 laboratoires, en tout cas au début de la pandémie, qui étaient seulement capables à effectuer ces fameux tests PCR. Après, ce qu'il faut aussi souligner, c'est les capacités des communautés, donc des organisations communautaires, par exemple au sein des banlieues, à se mobiliser. Ce sont peut-être des capacités qui sont moins souvent citées, mais qui interviennent du coup de manière plus localisée.
Voilà. Bah, on peut, il y a quand même un panel de raisons qui peuvent expliquer quand même que l'Afrique subsaharienne, ses États aient été moins touchés que d'autres, donc on peut peut-être les développer un peu. Est-ce que parmi les facteurs probants, Sina Schlimmer, vous citez la stabilité politique, la paix, tout simplement pour commencer, parmi les pays que vous avez étudiés?
Alors les facteurs que je mettrais plutôt en avant, c'est la capacité de nombreux États, surtout ceux qui ont fait face à d'autres pandémies, à d'autres maladies auparavant, comme par exemple Ebola, de prendre des mesures anticipées. Par exemple, une petite anecdote, quand je suis rentrée au Kenya, à Nairobi, tout début février, il y a déjà eu tout un ensemble de mesures prises à l'aéroport, y compris la prise de température des nouveaux arrivants. Donc il y a ces mesures anticipées, il y a des écoles qui ont été fermées, je reste toujours au Kenya, en Afrique de l'Est, mais aussi au Rwanda par exemple, des écoles qui ont été fermées même avant l'identification du premier cas de Covid. Donc il y a tout un ensemble de mesures prises de manière anticipée, ce qui a certainement contribué à atténuer Donc le choc de la première vague de la pandémie. On peut aussi citer la population qui reste plus jeune sur le continent. Donc ça, c'était un facteur qui était important. Donc c'est surtout maintenant pendant la deuxième vague à laquelle plusieurs pays font face, où cette population plus jeune est affectée. Mais donc ça, ça a un impact aussi sur le taux de mortalité qui reste généralement faible. Donc ça, on peut le dire, même si les chiffres sont, comme j'ai déjà dit, à évaluer avec beaucoup de prudence. Le taux de mortalité généralement reste plus faible sur le continent.
Voilà. Sina Schlimmer, vous citez quand même ces décisions fortes qui ont été prises, notamment au Kenya, quand il a enregistré sa première infection le 13 mars. Ça faisait déjà 8 jours que les écoles étaient déjà fermées. Ensuite, il a fermé les frontières nationales, arrêté le trafic aérien, isolé toute la capitale Nairobi. L'Éthiopie a déclaré le 8 avril un état d'urgence de 5 mois minimum. Est-ce qu'on peut dire que dans certains pays d'Afrique subsaharienne, l'État a fait montre de démonstration de force, d'autorité, de souveraineté?
Oui, tout à fait. Alors, il y a eu ces mesures anticipées qui ont été prises dans de nombreux États. Donc, il y a eu des initiatives nationales, mais aussi des initiatives régionales. Donc, par exemple, la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, mais aussi la communauté est-africaine en Afrique de l'Est, qui se sont vite, en fait, réunies, donc les chefs d'État, pour prendre des décisions aussi à l'échelle régionale, parce que fermer des frontières, ça a un impact quand même important sur le commerce transfrontalier, qui reste important, le transport routier également, et les mesures de couvre-feu, surtout de fermeture des marchés locaux, de d'isolation des capitales. On l'a vu dans de nombreux États africains, avec des impacts bien sûr importants aussi sur les économies locales, surtout sur l'économie informelle. Mais voilà, c'est une tendance générale qu'on a pu voir dans de nombreux États, encore une fois, parce que aussi on s'était attendu à une catastrophe, entre guillemets, sur le continent. Et les chefs d'État africains ont aussi observé en fait ce qui s'était passé auparavant déjà en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Donc il y a aussi eu ce temps pour se préparer.
Alors que ce soit le couvre-feu, le port du masque, les confinements, ce sont des mesures de toute façon préconisées par l'OMS, mais que chacun était libre d'appliquer ou pas, d'adapter ou pas, selon ce qui lui paraissait réaliste et réalisable, et de faire plus ou moins vite également. Mais ces États, est-ce qu'ils ont aussi pris des mesures de leur propre initiative? Il y a un décalage qui est un petit peu fastidieux, mais on va y arriver.
Oui, alors, il y a eu les États qui ont...
Je vous en prie.
Oui, j'espère que vous m'entendez. Oui, alors il y a les États qui ont pris des mesures, mais encore une fois, il y a aussi des organisations communautaires qui se sont mobilisées, les ONG, donc plus généralement les acteurs de la société civile pour des campagnes de sensibilisation, bien sûr. Il y a des entreprises aussi qui ont décidé, ou des organisations encore une fois non gouvernementales, qui ont décidé aussi de réorienter leurs activités vers la production, par exemple, de masques, et d'alcool hydroalcoolique. Donc il y a tout un ensemble d'acteurs en fait qui se sont mobilisés, et encore une fois aussi à ne pas sous-estimer, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ou pas souvent, mais aussi les organisations régionales dont les capacités sont souvent sous-estimées, qui ont mobilisé des fonds pour créer une sorte de filet social, même si ces mesures restent insuffisantes sur le plan financier. Mais voilà, il y a eu une mobilisation de tout un ensemble d'acteurs, y compris les gouvernements nationaux, bien sûr, mais aussi les acteurs régionaux et les organisations à l'échelle plus locale.
Il y a eu au Rwanda, par exemple, sur un plan strictement sanitaire, des distributions de médicaments par drone dans les hôpitaux les plus reculés. Au Kenya, un soutien aux agriculteurs locaux à qui, par exemple, que l'on formait aux outils numériques pour pouvoir être mieux informé, pour pouvoir s'informer en temps réel sur les cours de ce qu'ils vendaient, entre autres. La capacité à faire face à la crise sanitaire n'est pas la même d'un État à l'autre, mais la capacité à limiter les conséquences économiques et sociales non plus. Là encore, même question, quels sont les pays d'Afrique subsaharienne qui ont pu déployer des outils de protection sociale, qui ont pu s'en sortir le mieux?
Alors voilà, ce que vous venez de citer, c'est important parce que ce sont des outils qu'on peut aussi regrouper sous le terme des innovations technologiques. Et je pense que là, c'est un secteur en fait important à creuser, à mieux comprendre et éventuellement à y investir, parce que en effet, on a pu voir des innovations, surtout sur le plan technologique. Donc l'exemple que vous avez cité de la délivraison des médicaments par drone, ça reste des cas isolés. Enfin, c'est des tests qui sont effectués, qui commencent à être mobilisés, développés. Donc, ce sont des exemples importants, mais voilà, qui restent aussi à creuser. Il faut faire de recherches et faut les appuyer. Il y a par exemple aussi en Afrique de l'Est quelque chose qui est très répandu, qui n'est pas propre à la gestion de cette pandémie, mais qui est le paiement par téléphone mobile. Donc, qui s'est avéré être un excellent outil pour éviter le contact direct entre les commerçants et les clients, mais ce sont des outils qui sont déjà en place donc depuis un bon nombre d'années. Donc ça, c'est très important. Et je pense que ces innovations technologiques restent un secteur important à développer. Donc il y a ça. Et puis, un enjeu que vous avez cité, auquel sont confrontés de nombreux pays, c'est l'importance de l'économie informelle et le nombre de personnes. Donc au Kenya, encore une fois, c'est à peu près 80% de la population active qui est donc dans le secteur informel. Ce sont des personnes qui vivent au jour le jour. Et c'était ça plutôt l'enjeu dont on parlait beaucoup pendant les réflexions sur la gestion de cette crise sanitaire sur le continent. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ne peuvent pas se permettre de rester confinés chez eux, qui ne peuvent pas se permettre de ne pas sortir, ne pas vendre leurs produits, ne pas emmener des personnes parce qu'ils travaillent dans le secteur du transport informel, par exemple. Donc c'était plutôt là un enjeu, mais auquel l'ensemble des pays où le secteur informel est important sont confrontés. Et là, malheureusement, ce sont des effets économiques et sociaux qu'on va seulement pouvoir aussi évaluer avec le temps.
D'autant que
raison pour laquelle aussi...
D'autant qu'on peut s'y attendre sur le plus long terme, les restrictions de déplacement, la baisse de la demande en produits de base, alors que les pays d'Afrique subsaharienne sont quand même de gros producteurs, la baisse de la demande intérieure aussi, sur le thé, les légumes verts, l'horticulture, le tourisme, la fermeture des frontières va affecter les échanges transfrontaliers. Donc il faut de toute façon mener une réflexion de long terme sur cette question de la protection sociale.
Oui, tout à fait. Alors, la raison aussi pour laquelle, donc, comme aussi dans nos pays à nous, donc en Europe, on a dû jongler en fait entre l'importance de cette crise sanitaire et aussi les effets socio-économiques qu'elle peut produire sur le long terme. Donc, ce sont les mêmes réflexions qui ont aussi eu lieu dans ces pays. Au Sénégal, par exemple, comme dans beaucoup d'autres pays, les restrictions de mobilité ont déjà été levées ou en tout cas allégées dès cet été, d'où aussi le nouveau pic qu'on a vu dans beaucoup de pays africains, donc autour du mois de juillet. Mais voilà, c'était des mesures qui devaient être levées ou en tout cas allégées pour permettre un minimum d'échanges économiques et de commerce transfrontalier et routier qui reste quand même très, très important. Donc c'était à souligner, ce jonglage entre les différentes crises auxquelles fait face le continent. Après, il ne faut pas sous-estimer aussi en Afrique de l'Est et dans la corne de l'Afrique d'autres crises qui se multiplient et qui font qu'on parle en ce moment beaucoup moins du Covid. Je pense à la crise au sein de la région de Tigré en Éthiopie, aussi les crises environnementales avec l'invasion des criquets pèlerins sur l'ensemble de l'Afrique de l'Est et de la corne de l'Afrique, et auxquelles les gouvernements font encore face, les enjeux de la sécurité alimentaire qui ont été aussi accentués par la crise, mais qui existaient déjà auparavant, les crises politiques, on peut encore parler de l'Éthiopie qui vont enclencher des mouvements importants, des réfugiés par exemple de l'Éthiopie vers le Soudan. Donc tout ça fait que les restrictions de mobilité finalement ne peuvent être respectées que jusqu'à un certain point.
C'est pour ça, Sina Schlimmer, que pour conclure, je voulais vous demander justement les acteurs de l'aide humanitaire humanitaire ou de coopération internationale d'ailleurs, qui redoutent toujours et le disent une nouvelle crise humanitaire. Quelle présence sont-ils en mesure d'assurer aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que les ONG sont restées sur place pour la plupart? Et surtout, est-ce que cette nouvelle crise, qui se surajoute aux autres, comme vous le dites, a permis de remettre ce débat et cette réflexion sur la table, de repenser le rôle de la coopération internationale, des organisations internationales aussi qui s'invitent en Afrique subsaharienne à nouveau, le FMI, etc. Ce sont deux sujets différents.
Oui, mais... alors il y a des acteurs. Oui, il y a des acteurs, bien évidemment, qui sont restés sur place, et par exemple pour la distribution des produits alimentaires, mais qui devaient du coup aussi intégrer les mesures de protection sanitaire. Donc ce sont des acteurs qui sont toujours sur place et qui ont beaucoup de travail. Mais après, sur la deuxième question, sur le plan plus général, le rôle de l'aide internationale, ben on l'a vu avec cette réflexion et les mesures aussi prises pour mettre en place des moratoires au niveau des dettes, en fait, c'est de la dette internationale, et la suppression de la dette, donc une discussion qui a été menée par les États du G20, et qui ont aussi souligné cette fragilité aussi des pays par rapport à leur dépendance vis-à-vis des acteurs internationaux et surtout Merci. Financiers. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui jouent un rôle important maintenant pour intégrer la santé comme une priorité politique dans les politiques publiques internationales aussi menées. C'est quelque chose qu'on voit déjà toute cette réflexion sur la CMU en Afrique.
Merci beaucoup Sina Schlimmer d'avoir été avec nous ce matin, chercheuse au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. On a eu peur de vous perdre à plusieurs reprises dans cet entretien. Merci d'avoir été là et bonne journée.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
C'est l'un des plus grands romans d'aventure du 19e siècle. Le capitaine fracasse sur France Culture.
Je ne saurais paraître sur un pied digne de mon nom. Je ne sais même pas, en réunissant toutes mes ressources, si je pourrais arriver jusqu'à Paris.
Mais vous n'êtes pas obligé d'entrer triomphalement dans la grande ville.
Déclaration d'amour à la langue, le style précieux des salons comme l'argot des tavernes. Suivons-le, Vent debout, Le capitaine fracasse de Théophile Gauthier. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, dans 3 minutes il sera 7h et puis dans quelques heures ce sera le réveillon pour ceux qui peuvent
Oui, aussi. Bonjour,
en profiter.
Julie
Bonjour Guillaume Erner. Quelles sont les vraies règles sanitaires alors à adopter pour ce réveillon?
Alors attention hein, Julie, les règles définitives. Il y a eu des pelletées de reportages, articles, digressions sur ce qu'il faut faire ce soir, mais voilà la seule qui fait autorité, laquelle? Eh bien, j'ai décidé de convoquer un sondage effectué par le New York Times pour Thanksgiving, la fête américaine, mais je me suis dit que ce qui était valable pour Thanksgiving l'était aussi pour Noël. Et ce sondage a été réalisé auprès d'épidémiologistes. Alors autant vous le dire, le résultat est complètement déprimant. Rien que la photo illustrant l'article donne envie de pleurer. C'est une épidémiologiste qui montre le garage dans lequel elle va inviter sa famille à dîner pour célébrer Thanksgiving. Et tout ou presque est du même acabit. Car 64% des épidémiologistes interrogés n'inviteront personne à ce dîner, une dinde et au pieu. 15% surenchérissent en expliquant qu'ils envisagent de ne rien faire du tout, pas de dinde et au pieu. S'il n'y avait pas cette satanée bête à picot, on en déduit aisément que les épidémiologistes sont une profession essentiellement constituée de sociopathes et de grands pervers. L'un d'entre eux d'ailleurs explique qu'il s'est arrangé avec des amis pour cuisiner. Alors chacun un plat, hein, et puis on échange les Tupperware et chacun rentre chez soi pour dîner. Super.
Pas mal.
What a fête, comme on dit en anglais. Les rares qui ont maintenu leur plan envisagent de dîner dans le jardin avec des parasols chauffants, ce qui suppose un jardin et un parasol chauffant. Bref, sur l'échelle de la convivialité et de la chaleur humaine, on n'est pas loin de la température de conservation du vaccin, ce qui est normal si c'est des épidémiologistes. Heureusement, nous ne sommes pas nés de la dernière vague et l'on peut imaginer que ces épidémiologistes mentent, car comme le disait Raymond Aron, qui n'était pas épidémiologiste, le monde dans lequel on vit n'est pas le monde dans lequel on pense. Mais surtout, demander conseil à un épidémiologiste sur ce qu'il faut faire pour Noël, c'est un peu demander à un avocat pénaliste si les êtres humains sont honnêtes, ou tenter de cuisiner un cassoulet avec un diététicien vegan. Si le monde était abandonné aux épidémiologistes, nous serions peut-être tous, hélas, immortel. Mais comme le disait l'autre, l'éternité c'est long, surtout à la fin.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et puisqu'il est question de cuisiner, eh bien nous allons parler de cuisine ce matin en compagnie de la chef cuisinière et maître restauratrice Anne-Sophie Pic. Elle sera rejointe par un historien de la gastronomie, Jean Vito. Nous sommes le jeudi 24 décembre 2020 et il est 7h. Excellent réveil à tous.